Homo urbanicus.
Éric Dotter, bonjour. Homo urbanicus, vous le savez, c'est votre magazine de la ville sur Aligre FM. Urbanicus, c'est l'adjectif vaguement antique qui corche les oreilles de nos auditeurs latinistes depuis septembre 2011, date de naissance de cette émission. C'est un vilain néologisme voulant dire urbain. Mais réfléchissons un instant sur le mot homo, ce mot en latin qui désigne l'homme avec un grand H, l'humain, masculin comme féminin. Mais justement, la ville est-elle si féminine que cela dans la place qu'elle laisse aux femmes? L'espace urbain est-il sexué? Est-il au contraire équitablement réparti entre hommes et femmes? C'est la question que nous nous poserons en compagnie de Chris Blache, qui a créé l'association Genre et Ville et qui est aujourd'hui notre invité. Pascal Duterte, notre architecte chroniqueur, nous a quittés pour 2 semaines, mais avant son départ pour de lointaines contrées, nous avons enregistré avec lui sa chronique. Il a décidé de la consacrer au trio gagnant, la ville, la femme et le cinéma. Entre Jeanne Moreau, Jane Seberg ou Audrey Hepburn, les femmes ont souvent incarné dans le cinéma des figures de proue du chic au sein des villes qui ne l'étaient pas moins. On le retrouvera en fin d'émission. Bernard Millot est à la réalisation et Ricardo Burgos à la technique aujourd'hui. Nous voilà donc partis pour 55 minutes ensemble.
Homo urbanicus.
Chris Blache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, si je ne m'abuse.
Oui.
Et avec Pascal Lapalu, qui est urbaniste, vous avez créé l'année dernière une association qui s'appelle Genre et Ville, au singulier.
Tout à fait, oui.
Vous êtes parti du constat que le territoire de la ville était inégalement réparti entre hommes et femmes, entre garçons et filles. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu comment vous êtes arrivé à ce constat. Et puis, c'est quoi ce constat? En tant que, peut-être que ma vision est fausse, mais en tant qu'homme, j'ai pas cette impression-là.
Alors, d'une part, je pense que vous répondez effectivement en tant qu'homme et que c'est un point important parce que on ne vit sans doute pas la vie de la même manière entre vous et moi. Alors, plutôt que de dire pourquoi on est arrivé directement à cette question de ce que je qualifierais d'une forme d'absence des femmes dans la ville ou de disparition, comme dirait Pérec, je voudrais d'abord dire que c'est venu d'un constat plus profond, un constat d'activiste féministe, et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une législation qui est quasi complète pour permettre aux femmes d'occuper des fonctions un petit peu partout.
Il y a la loi sur la parité, quand même.
Il y a une loi sur la parité. Cette loi n'est pas à s'appliquer. Il y a une législation qui est faite pour que les femmes aient les mêmes salaires partout. Ces choses-là ne sont pas appliquées. Alors, d'où vient le problème? Il doit venir d'ailleurs. Et la question que nous nous sommes posées, avec Pascal, mais avec d'autres aussi, a été de se dire, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus profondes qui ont installé nos institutions, notre environnement, dans un univers qu'il est très très difficile de faire bouger? Et comme Pascal est urbaniste et que moi je réfléchis beaucoup aux questions effectivement de sociologie, on s'est dit que la ville pouvait être un très très beau terreau pour explorer ces questions-là. Et donc la question qu'on s'est posée était est-ce que la ville est un miroir de notre société? Et allons voir.
Alors justement, ensemble, on s'est vu jeudi dernier pour préparer cette émission et vous m'avez dit, eh ben, on va voir ensemble dans les quartiers du Haut-Belleville où, qui est votre quartier de... de résidence et d'exercice professionnel, vous m'avez emmené dans les rues du Haut-Belleville et il y a un constat là. Alors, où sont les femmes?
Oui, absolument. Et on s'est dit que pour travailler, il fallait travailler dans le concret. Donc travailler dans le concret, pour nous, ça a été de travailler directement sur le terrain qu'on connaissait, qui était le terrain du 20e, qui est en plus un terreau très riche, qui est un terreau avec beaucoup de communautés différentes, un terreau qui est en train de changer. En
c'est
plus,
un quartier populaire.
C'est un quartier populaire, avec aujourd'hui quand même une forme de gentrification qui a lieu. Donc c'est intéressant aussi de voir si cette gentrification, elle change des choses à ce niveau-là ou pas. Et donc on s'est dit que le terreau était intéressant. Et ce que j'ai voulu faire, l'exercice qu'on a voulu faire avec vous, c'était de vous emmener notamment sur tout ce qui est ce qu'on qualifie d'équipement à destination, par exemple, des jeunes dans le quartier. Donc, on est allé en haut des jardins de Belleville et on vous a montré le parc de sport où il y a des choses qui peuvent être tout à fait asexuées, c'est-à-dire qu'on a un terrain de basket, où on a un espace sportif. L'espace sportif n'est pas a priori dédié aux hommes plus qu'aux femmes. Or, en l'occurrence, cet espace sportif est occupé à 99% par des hommes. Et quand il y a une femme, elle est, c'est on pense que c'est la copine du caïd du coin et qui a le droit de rentrer, mais à chaque fois que nous on a voulu y aller pour prendre des photos, en tout cas on a senti qu'on n'était pas du tout les bienvenus. Et c'est un exemple, mais c'est un exemple qu'on retrouve partout dans la ville, en fait, puisqu'on est allé faire cette observation ailleurs.
Alors, est-ce qu'on n'est pas en train, justement, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger un effet de ghetto, qui serait celui d'un quartier populaire, d'une cité, d'une zone sensible, qui serait le Haut-Belleville, et de la généraliser à l'ensemble d'une ville, ou à l'ensemble de villes au pluriel?
Alors, je pourrais dire oui, si on ne s'était, évidemment, quand on fait une étude, on ne se limite pas à regarder ce qui se passe sur un quartier en particulier, et donc on est allé voir ailleurs comment ça se passait. Alors, on a fait une étude, notamment, par exemple, sur le bois de Vincennes. Je pense pas qu'on puisse qualifier nécessairement le bois de Vincennes de ghetto. Et le bois de Vincennes touche des municipalités très différentes en plus. Et on a fait exactement les mêmes constats. C'est-à-dire que, par exemple, au bois de Vincennes, si vous restez sur la partie périphérique, qui est organisée beaucoup plus comme des parcs de loisirs à destination des enfants, là, on trouve des femmes qui sont dans leur fonction maternelle, c'est-à-dire qu'on les trouve avec les enfants. On trouve aussi des femmes qui font leur jogging avec des copines, mais on les voit rarement seules, ou alors pour promener leur chien. Et dès qu'on s'enfonce un peu dans le bois, on s'aperçoit d'une part que ce bois de Vincennes n'est pas un bois, finalement, que c'est un lieu de haut équipement, et que ces équipements sont destinés, ou en tout cas, s'ils ne le sont pas destinés, sont occupés par les hommes. C'est-à-dire qu'on trouve des terrains de foot, on trouve une piste cyclable je qualifierais même de haut niveau, ils vont très vite sur cette piste cyclable, et qui leur réservait avec des panneaux, ils demanderaient apparemment des feux aussi pour pouvoir continuer à utiliser cette piste, donc on est dans un univers d'hommes, et les femmes disparaissent, et quand on en trouve quelques-unes, on s'aperçoit que c'est plutôt le soir et que c'est lié à la prostitution.
Alors, en dehors de cet aspect ressenti, vous êtes sociologue, donc vous appuyez sur des constatations objectives. Est-ce que les chiffres viennent à l'appui, je sais pas, sur Paris, est-ce qu'on constate un taux d'occupation réduit lorsqu'il s'agit de sexuer l'occupation du territoire public, hein?
Alors, j'ai pas de mon côté fait la recherche sur ces éléments-là, mais on a une étude qui a été faite sur Bordeaux récemment, qui s'est occupée précisément des espaces publics destinés aux jeunes, c'est-à-dire espaces de loisirs. Et dans ce contexte-là, ils ont relevé quelques chiffres, alors que j'ai pas amené avec moi, mais vous pouvez trouver sur notre site internet, parce qu'on a mis l'étude sur notre site internet. Et sur cette étude, on se rend compte que pour une grande catégorie, alors d'une part que les filles c'est à peu près mixité, ou en tout cas il y a une certaine mixité jusqu'à la sixième, que quand on arrive au collège il y a un fort déficit de filles, que là on commence à se retrouver avec uniquement les garçons dans les activités sportives, que notamment pour tout ce qui est activité collective on ne retrouve plus que pratiquement que des garçons, alors tout ce qu'on connaît, foot par exemple, basket. Je dirais que cette étude elle était quand même intéressante parce qu'elle montrait aussi que sur d'autres activités, comme l'athlétisme par exemple, eh bien c'était tout à fait à parité. Donc ça prouve bien qu'il y a des logiques construites de ce qu'est un univers de garçons ou un univers de filles, et que chacun et chacune y répond sans doute par des injonctions répétées depuis son enfance.
Donc, vous êtes en plein au cœur du problème. Éducation sexuée égale reproduction du modèle sexué égale faible occupation du territoire par le sexe dit
alors,
faible.
On
va revenir sur cette notion de sexe dit faible. Dans ma bouche, il s'agit là d'un propos volontairement caricatural. On reviendra sur l'utilisation de ce terme tout à l'heure.
D'accord. Alors, éducation, oui. Mais aussi, à mon sens, et ça c'est une chose sur laquelle je tiens vraiment à approfondir les choses, je pense que la structure de notre société est faite de manière à ce que les femmes ne soient pas dans l'espace public. Tout concourt à ce que les femmes ne soient pas dans l'espace public. Nous avons une disparition en quelque sorte organisée pour... Alors, À quelle fin? J'en sais rien. C'est intéressant. On se pose la question régulièrement pour savoir, mais ça sert à qui? Ça sert à quoi? Mais en définitive, il y a une réalité à cette absence des femmes et à cette organisation de l'absence des femmes dans l'espace public.
Vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, tâchez, moyen de faire foyer ça. On pourrait plutôt noyer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe.
Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, ce que tu veux de moi dans ton beau métro. Il fait le coq quand on met sa botte, mais elle est pas plus courageux qu'une fiotte. Quand il me voit, il regarde par terre. Quoi de bois, quoi de bois, quoi de faire? Il pavane le joli petit coq, mais il regarde pas toujours ses bottes. C'est moi la femme à barbe, viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi la femme à barbe, qu'est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Si t'en as assez, t'as qu'à nettoyer, faire la place pour tes belles godasses. Si je te dérange pas, il faut que tu ranges. Moi là, et tu me verras.
Sont pas beaux tes jolis petits mioches, grassouillés, striqués comme des cloches. Je t'aurais mieux fait d'avoir un hamster. À quoi de bois, quoi de bois, quoi faire? Tu les tapes tes jolis petits mioches, parce qu'hier ils t'ont fait les poches. C'est sur eux que tu te passes les nerfs. À quoi de bois, quoi de bois, quoi faire?
Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi. Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi, la femme à barbe, viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale?
Homo urbanicus.
Et nous traitons toujours avec Chris Blache de la place des femmes dans la ville. C'est un petit clin d'œil pour vous, ça, ce spécial femme à barbe, Chris Blache, car dans votre engagement féministe, vous avez d'abord été membre de ce collectif, on peut le qualifier de collectif Happening, qui avait comme principe, principe déclaratif, il est temps de remettre le féminisme en selle et de repartir à la conquête des territoires du pouvoir, territoire, on en a parlé tout à l'heure, sous toutes ses formes. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consistait exactement, en quoi ça consiste?
Oui, ça consiste toujours. Ça consiste toujours.
C'est bien, en 2008.
C'est bien collectif, c'est un collectif d'activistes, plus que de Happening. C'est un collectif auquel je participe depuis quasi les débuts et qui est né au moment des élections de 2007. Mmh. On s'est rendu compte à quel point finalement des choses qu'on pensait derrière nous étaient encore très très prégnantes et notamment le sexisme vis-à-vis de femmes qui voudraient prendre des places importantes en politique. Et on s'est dit tiens, ils veulent toujours pas lâcher leur pouvoir, mais on va aller les voir à ce moment-là et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arrêter de montrer les femmes puisque c'est toujours très très intéressant de montrer les femmes et si possible de les dévaluer. Nous, on va aller évaluer les hommes. Et donc les évaluer, ça veut dire les féliciter, c'est leur dire bravo, comme vous êtes beau, comme vous occupez bien le pouvoir. Et on va faire de la caricature de cette situation, puisque cette situation est caricaturale. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé et qu'elles continuent aujourd'hui, puisque nous continuons à avoir des actions. Il y en a encore eu une vendredi dernier.
Alors le principe, vous êtes toutes uniquement des femmes.
Oui.
Vous avez une barbe, moustiche. Et vous vous mettez silencieuse, dans un premier temps silencieuse, oui. À côté ou devant, derrière les hommes, soit dans un conseil d'administration à l'occasion d'une assemblée d'actionnaires, oui. Soit à l'occasion d'une réunion politique, et vous êtes la muette jusqu'à ce que vous fassiez ce mot de félicitations que vous veniez d'évoquer.
Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur l'absence des femmes. Or, on ne se rend pas compte. Et quand vous disiez tout à l'heure, en début d'émission, que vous traversez la ville sans vous rendre compte que les femmes peuvent en être absentes, alors ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas dans la ville, mais qu'elles n'occupent pas forcément l'espace de la même façon que les hommes. Et donc, tout d'un coup, en se mettant en miroir et en utilisant les artifices des hommes, notamment la barbe, plus le jeu de mots évidemment que ça évoque, dans ce cas-là, on met en valeur leur omniprésence. Et c'est ça que nous avons trouvé intéressant, c'était de ne pas parler des femmes, mais de parler des hommes et de la façon dont ils tiennent le pouvoir et ne veulent pas le lâcher, en quelque sorte.
Alors, ça c'est un petit rappel du collectif dont vous faites partie. Au fond, au sein de votre association Genre et Ville, puisque vous venez nous voir pour ça essentiellement, vous prolongez votre action par d'autres moyens.
Oui. Oui, alors, ce qui est intéressant, je reviens deux secondes à la barbe, ce qui est intéressant avec la barbe, c'est que c'est un outil, alors j'ai utilisé un barbarisme, on n'arrive pas à trouver l'équivalent français, qui est l'empowerment. Et cet empowerment, c'est une autocapacité à se mettre en situation de pouvoir, en quelque sorte. Vous voyez, en français, c'est un petit peu plus long. Et la barbe est vraiment un outil d'empowerment terrible. Je crois qu'aujourd'hui, aucune femme qui soit passée par la barbe, je crois, aucune ne me contredira, aucune n'a... Enfin, tout ont grandi pour faire un prolongement de ce moment barbe. Et c'est ce qu'on fait avec Genre et Ville. C'est reprendre ces espaces de pouvoir, comprendre pourquoi cet espace urbain est tant monopolisé par les hommes, à quel moment ça s'est fait. Donc, on est parti sur une phase constat, et ça, on va continuer à le faire. Mais parallèlement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de ne pas rester enfermé dans le constat, et c'est de regarder... d'essayer de soulever des situations, des options, des possibilités pour que les femmes occupent cet espace.
Alors, type d'action que vous avez entreprise, vous avez interpellé la ministre des Droits de la Femme, Najat Vallaud-Belkacem, à propos d'un texte qui vous paraissait aberrant. Alors, à la première lecture, moi, ça m'a paru tout à fait anodin. Et puis, vous avez souligné la première phrase de ce texte. Il s'agit de quoi ? Dites-moi un petit peu que ce texte.
Eh bien, quand on parle des institutions, les institutions, elles sont extrêmement stigmatisantes et on s'en rend compte. Alors, souvent, sous couvert de faire du bien. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un article qui est posté sur le site du ministère de l'Intérieur, qui s'appelle Conseils aux femmes, et qui est censé protéger les femmes.
C'est bienveillant.
Qui serait a priori quelque chose de bienveillant. Alors, effectivement, la première phrase, je peux vous la lire, c'est « En raison de leur sexe et de leur morphologie, les femmes sont parfois les victimes d'infractions particulières. » Alors, en raison de leur sexe et de leur morphologie, déjà d'entrée, c'est quand même un petit peu compliqué.
Ce qu'on dit dans ce texte, c'est qu'il faut enlever son prénom de la boîte aux lettres pour qu'un éventuel agresseur ne risque pas d'identifier la présence d'une femme seule, la mention mademoiselle, la mention veuve, etc. etc.
On dit, serrez bien votre sac à main sous votre bras, ne sortez pas dans une rue déserte, restez enfermé chez vous, mettez un judas.
Donc la ville est dangereuse.
Donc on fait la promotion d'une ville dangereuse et d'une ville dans laquelle une femme ne devrait pas sortir. Alors c'est assez intéressant, parce que quand on connaît les chiffres sur tout ce qui est violence faite contre les femmes, on s'aperçoit que la majorité des femmes qui se font agresser dans leur proche entourage, connaissent les gens qui leur sont proches. Donc on se demande
certains chiffres, à l'appui de ce que vous dites, sur les agressions qui ont lieu, il y en a 68% qui se déroulent au domicile de l'agresseur ou de la victime. Où est la dangerosité de la ville ?
Voilà.
7% se déroule dans la sphère publique, dont 3,7% dans la rue. Or, on continue à dire les parkings, les bois, et le parking et les bois sont statistiquement parlant les lieux les moins dangereux.
Oui.
J'avoue que c'est un constat
C'est un constat qui donc nous interroge sur le message qui est donné. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ? Alors, j'ai pas forcément la réponse, mais une des réponses que je donne à cela, c'est même pas peur. Même pas peur. La ville ne me fait pas peur et je souhaite qu'elle ne fasse peur à personne. Et quand je dis personne, c'est femmes et hommes confondus, personnes âgées confondues, parce que là aussi, il y a des injonctions aux personnes âgées qui sont les mêmes que les personnes. Donc cette notion de faiblesse, de fameux sexe faible que vous avez voulu évoquer tout à l'heure, on la retrouve là. Il y a une injonction à être un sexe faible et qu'on intègre très très tôt, et qui fait que chaque femme, y compris moi, avons des stratégies pour traverser la ville, alors que la ville n'est absolument pas dangereuse pour nous. Voilà, donc c'est ce travail-là que nous menons.
Homo Urbanicus.
On peut rappeler que Chris Blach est avec nous, c'est l'invité d'Homo Urbanicus, elle est sociologue avec Pascal Lapalu, qui est urbaniste. Elle est la créatrice de l'association Genre et Ville qui s'interroge sur la place des femmes, vous m'avez corrigé, pas de la femme mais des femmes dans la ville. Pourquoi cette ponctuation?
Interrogez-vous vous-même sur cette question.
Parce que la femme c'est l'idéal féminin et les femmes
quel est cet idéal? Non, nous sommes beaucoup et diverses et je me bats beaucoup aussi d'ailleurs pour qu'on oublie un peu ces frontières aussi de vouloir nous mettre systématiquement d'ailleurs dans un rôle de femme ou d'homme. Je crois que je l'avais évoqué avec vous, je me bats pour qu'on supprime le numéro 1 et le numéro 2 de la sécurité sociale par exemple, qui nous clivent alors que nos personnalités sont bien plus complexes que cela. Puisque nous avons aussi bien des caractères qualifiés masculins ou féminins et que nos cerveaux sont bien plus malléables que tout ça. Donc c'est compliqué de se retrouver cantonné dans un rôle de la femme universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, pour reprendre ce qu'on a évoqué avant d'écouter Brigitte, j'aimerais qu'on revienne sur ce concept de ville dangereuse. Vous êtes une femme, vous avez intégré comme toutes les femmes, parce que peut-être votre mère vous l'a dit, votre grand-mère avant, que la ville était dangereuse, qu'il fallait faire attention à telle ou telle heure, alors que statistiquement, on vient de voir que c'était absolument le contraire, qu'il était plus dangereux de rester chez soi que d'être dans la rue. Alors, c'est un constat que vous faites, vous, comme association Genre et Ville, mais c'est un constat qu'on retrouve dans toutes les études sociologiques.
Oui, on le retrouve dans toutes les études, et il y a aussi d'ailleurs des villes qui ont même essayé de mettre des choses en place, alors que, par exemple, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, qui cherchent à faire des circuits sécurisés. À Montréal, ils ont fait des choses, ils font des marches exploratoires qui sont intéressantes. La marche exploratoire est intéressante au sens de prendre l'espace de la ville, d'occuper l'espace. En revanche, la notion de pouvoir aller se réfugier quelque part me paraît biaiser le propos. Donc c'est vrai que on se bat quand même beaucoup aujourd'hui pour tout simplement faire tomber cette question de la dangerosité de la ville. Et c'est tout le propos est là. D'où cette chose avec ce texte du ministère de l'Intérieur où on a demandé à Najat Vallaud-Belkacem, qui a d'ailleurs accepté. Alors elle s'est pas encore fait, donc je vais quand même les marquer à la culotte si j'ose dire pour que ce soit fait, mais que ce texte notamment sur le site du ministère de l'Intérieur soit supprimé, ou s'il doit rester, qu'il soit vraiment avec les indications de en cas d'agression à qui dois-je m'adresser, etc. Mais certainement pas avec les injonctions telles qu'elles sont posées aujourd'hui, qui sont des injonctions à se cacher et à rester chez soi.
Alors vous êtes sociologue, donc quelque part les comportements de l'humain dans son, je dirais, comme groupe social vous sont relativement familiers. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on le sait, que dans les trois quarts des viols, les victimes connaissent leur agresseur, que le viol conjugal existe, que les violences sont principalement conjugales ou familiales. Qu'est-ce qui fait que, bien qu'on enfonce ce coin, il y a toujours cette peur du loup?
J'essaie de m'interroger sur ces questions-là. Et ça me ramène à chaque fois à la même chose, c'est-à-dire que nous sommes dans un modèle de société patriarcale qui, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la barbe, et qui est maintenu par des organes de pouvoir, et les organes de pouvoir sont aujourd'hui à 80% des hommes, et par conséquent, je pense qu'ils organisent l'espace de façon pas forcément consciente, hein, j'en sais rien. On va leur donner ce bénéfice du doute. Mais en tout cas, qui organisent l'espace pour eux. Et qui organisent les choses pour eux. Et je pense que en faisant des femmes, y compris dans leur inconscient, des proies potentielles, des victimes potentielles, on peut se mettre dans un rôle de protection et garder son pouvoir. Je pense que de toute façon, tout n'est question que de pouvoir. Et y compris quand on est sur la question du viol, on est dans une question non pas sexuelle, mais une question de pouvoir de l'un sur l'autre. Donc c'est la question des pouvoirs des uns sur les autres qui est manifestée ici. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à travailler sur les institutions et à démonter ces institutions. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on pourra avoir toutes les lois du monde, nous n'aurons pas d'égalité.
Alors, est-ce qu'on peut parler de confiscation de la rue, comme on peut le lire ici et là, de confiscation de la rue ? La rue serait confisquée aux femmes ?
Elle est confisquée de fait. Vous l'avez vu quand on a traversé la rue l'autre jour, mais on a parlé du parc, mais il n'y avait pas que le parc. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on longeait le trottoir de la rue des Envierges pour aller vers le parc, il y avait 14 garçons qui tenaient le mur à cet endroit-là. Vous n'avez pas vu une fille. Il était 18h30.
La nuit était tombée.
Il était 18h30. Mais à 10h du matin, c'est pareil. Et à 24h, 23h, 23h30, minuit, c'est la même chose. Donc, la ville est confisquée de fait, et pour une double raison, c'est d'une part, donc les garçons savent très tôt qu'ils peuvent occuper cet espace. En plus, on leur dit quelque part, sortez et occupez cet espace. Et les filles, on leur dit des choses de complètement différentes. Je voudrais vous citer une anecdote. L'autre jour, j'étais dans le métro. Et j'écoutais un couple qui était en train de discuter de façon assez vivace. Et lui disait à sa jeune copine, « Non, mais tu comprends, mon fils, je peux pas le laisser prendre le métro. Il est trop vert, il va se faire agresser. » Et elle dit, « Mais enfin, à quel âge veux-tu qu'il commence à prendre le métro? Il a quand même 15 ans. » Il dit, « Mais quand il aura des couilles. » Et je me suis dit, « Ah là là, et si c'était une fille ?»
C'était pas gagné.
Hein, voilà. Donc, voilà ce qui se passe dans la tête des gens. C'est très, très ancré, cette question-là.
Alors, par rapport à la présence des femmes dans les espaces publics, j'ai fait une petite recherche sur le net, et là, je tombe sur une discussion d'un café qui s'appelle le Café Géo. Aujourd'hui, la femme est belle et bien présente dans la ville. Elle n'a plus besoin de légitimer sa présence, car elle fait partie de cet espace. Elle y vit, y travaille, y accompagne ses enfants à l'école, va faire les courses. Mais pour autant, tous les travaux montrent que les femmes doivent vivre avec un sentiment intériorisé plus grand que les hommes d'avoir à se protéger. Tout est dit.
Oui, tout est dit. Et notamment, ce qui est dit, c'est qu'elle la traverse et qu'elle y a des fonctions. Et ça, on le voit. Alors, un des premiers exercices qu'on a fait avec Jean Réville, c'était de prendre un appareil photo et descendre dans la rue. Et de remarquer qui occupait l'espace et comment. Alors, d'une part, on a remarqué que tous les bancs étaient occupés par des hommes. Que les rares fois où les bancs sont occupés par des femmes, elles sont plusieurs, ou alors elles sont occupées, c'est-à-dire qu'elles ont un livre, mais on les verra rarement posées sur un banc, si j'ose dire, comme on voit beaucoup d'hommes par contre. Donc on a fait cet exercice-là, et on s'est aperçu que les femmes traversaient la ville, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas absentes de la ville, mais elles la traversent, elles la traversent avec une poussette. Aussi, on a étudié un autre phénomène, qui porte quoi ? Les hommes sont souvent, alors quand ils portent quelque chose, parfois c'est une petite pochette, on sent que c'est sérieux, il y a la pochette, on va à la réunion du conseil syndical, on fait quelque chose d'important. Les femmes ont des sacs, alors l'éternel sac des femmes, c'est pas un mythe, et elles ont pas qu'un sac en général, elles ont plusieurs sacs, il y a le sac des courses, il y a des sacs. Donc on s'aperçoit de choses ancrées comme ça, de fonctions, d'éléments, et c'est ça qu'on démonte. Après, maintenant, faut pas qu'on reste enfermé là-dedans, et je pense qu'on veut aller construire, c'est-à-dire prendre l'espace. Et je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais prendre l'espace, c'est faire ce qu'on a fait notamment pour Parking Day, utiliser cette expérience de Parking Day. C'est une très très bonne analogie, parce que qu'est-ce que c'est que Parking Day ? Parking Day, c'est imaginer un jour qu'un espace qui est d'habitude totalement dédié aux voitures, c'est-à-dire la rue. Mmh. La rue est occupée par les voitures, et notamment des voitures garées, que ce jour-là, on prend la place des voitures et on fait autre chose à la place. Et donc, ça veut dire qu'on dit à son imaginaire, cet espace que tu voyais tous les jours comme dédié aux voitures, que tu n'imaginais pas autrement, tu peux en faire autre chose. Et partant de cet exemple-là, on s'est dit, mais c'est la même chose avec les femmes. L'espace de la ville, aujourd'hui pensé pour les hommes, doit pouvoir être pensé autrement. Donc regardons les différents espaces et occupons-les. Faisons autre chose. Donc on avait fait notamment une chose qui s'appelait l'espace de qui sur un espace de Parking Day. Et on a interrogé les gens dans la rue.
Pas d'intrus dans mon intro. Je suis la fifi qui derrière un micro sort ses griffes, ses crocs. Pendant ce tu te la racontes ghetto. Avant c'était légitime de fond sur track. Là c'est volontaire au fond j'attaque. Attends si t'es mécontent on va t'en loin. Tu m'as suivre en moi que la maman si t'as sexy chicha. Mais j'ai plus d'un tour derrière ma guitare. De penser que je t'adore. Pour court, je t'en veux à mort.
tu peux rien pour attendre sur toi. J'y jetterai mon venin. T'imaginer qu'en étant un mec, t'es plus top qu'une meuf. Fais de la gonflette toute la journée. Savais-tu qu'il n'y a que toi que tu bluffes? Ne veux pas dire femme tourtou à laquelle tu mets la corde au cou. Quand il s'agit de toi tout court, et tu me dois déjà beaucoup. Pour toutes les fois où tu m'as poussé à bout, à vous, il n'y a plus de tabou. Tout ce que tu possèdes est à nous. Gâcher, t'as qu'à ne pas nous agacer et va vite se cacher.
Avec Chris Blash, son invité, Homo Urbanicus s'intéresse aujourd'hui à la place des femmes dans la ville. Chris Blash, finalement, le constat que vous faites, c'est que malgré la transformation évidente de la société du 21e siècle, et donc de la ville, on est 80% à être des urbains, on reste sur une division des rôles qui est héritée du 18e siècle, c'est ça, entre hommes et femmes?
Oui, en fait... On peut dire que, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va pas refaire tout l'historique aujourd'hui. Mais les femmes ont disparu de la rue quand on est reparti sur cette notion de public et privé. Michel Perrault le dit très bien dans son ouvrage quand elle dit quand on parle de l'homme public, c'est l'honneur. Quand on parle des femmes publiques, c'est l'horreur. Donc, je pense qu'on peut pas le dire autrement. C'est la société bourgeoise qui s'est construite à ce moment-là avec des femmes dont le rôle a été dévolu à créer la famille et qui crée elle-même l'outil de production.
Alors, avant cette transformation, la femme, elle était où? Elle occupait quelle
Mais la femme était partout, puisque les rôles étaient partagés. D'abord, on était dans une société beaucoup plus rurale, et même quand les femmes sont arrivées dans la ville, elles occupaient plein de petits boulots. Donc, si on regarde des imageries du 17e, du 18e siècle, on s'aperçoit que les femmes étaient présentes partout. Alors, elles disparaissent dans les noms, on mentionne les artisans, mais on mentionne rarement les artisanes, mais elles étaient les vendeuses de quatre saisons. On les revoit d'ailleurs dans certains films qui évoquent ces périodes-là. Et elles ont disparu au moment où on a nettoyé la ville aussi, où Haussmann a nettoyé la ville, où il s'agissait de ne pas laisser la ville comme lieu de subversion. Donc les femmes qui occupaient les marchés, on les a réunies dans des marchés couverts, et puis de de fil en aiguille sans rentrer à la maison. Et ils n'en sont plus ressortis.
Notamment pour y travailler. Il y avait pas mal d'emplois à domicile, de travail à domicile. C'est aussi l'apparition de la domestication.
Oui, alors c'est intéressant d'ailleurs parce que je relisais avant de venir... Je relisais avant de venir les éléments d'un livre, d'une collection qui a été faite par Sylvette Deneuve, qui est une sociologue qui travaille beaucoup sur cette question du genre et de la ville. Et... il y avait notamment cette question du travail domestique. Et on ne demanderait à aucune entreprise de savoir faire à la fois des repas, du repassage, d'élever les enfants. On dirait, mais en termes de marketing, on serait totalement hors cible. On demanderait des choses complètement, complètement invraisemblables. Mais c'est ce qu'on demande aux femmes, gratuitement, par ailleurs.
Alors, donc, vous évoquez cette époque où la femme était plus présente dans la rue. Donc, à partir du 19e siècle, le 19e d'Haussmann, la société bourgeoise, l'apparition de la société bourgeoise, elle rentre chez elle.
Oui, alors, il y a un double phénomène très, très intéressant d'ailleurs. C'est qu'à ce moment-là, elle rentre chez elle, mais par contre, elle apparaît dans la rue sous forme de statuaire. C'est-à-dire, si vous regardez les immeubles haussmanniens, précisément, en pierre de Paris, vous verrez toutes ces sculptures de femmes qui apparaissent comme des égéries. Donc la fameuse femme, justement, déifiée, idéalisée, qui apparaît partout et au moment où elle disparaît physiquement de la rue. Donc c'est intéressant, on en crée une symbolique. Elle est effectivement cette femme qui est liée à un imaginaire de mère, il y a énormément de choses qui s'accrochent à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir ce double phénomène s'effectuer en parallèle.
Alors la symbolique, elle est également dans la dénomination. Si on prend une ville sont des rues. Et bon, pour préparer cette émission, vous m'avez amené à me concentrer sur le nombre d'apparitions de noms de femmes dans les noms de rues. Alors j'ai l'exemple de Toulouse. À Toulouse, il y a 2800 voies dont 1000 portent des noms de personnes humaines, et il y en a 53 qui sont des femmes.
Oui.
Vous m'avez dit l'exemple pourrait être répété pour n'importe laquelle.
Oui, je crois qu'on peut l'appliquer partout. Dans le 4e arrondissement de Paris, pour être très précis, il y a 4 noms de rues. Qui sont des noms de femmes, et dedans il doit y avoir le rue ou la place du marché Sainte-Catherine. Enfin, c'est assez affligeant, et c'est intéressant parce qu'encore une fois, quel modèle voulons-nous garder? Alors nous avons Marianne, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs avec la barbe nous barbons Marianne, on a un symbole de la République.
On peut dire que vous avez un superbe badge qui représente la Marianne barbue.
Absolument, oui, j'ai le badge des barbus, ne pas sortir déshabillé. Et donc c'est intéressant parce que en dehors de ça, donc de ces modèles idéalisés, la femme n'existe pas en tant que modèle. Et alors parfois on me dit mais peut-être parce que il n'y en a pas suffisamment qui aient fait des choses dans l'histoire. Alors j'ai amené un document, je ne sais pas si on a le temps d'en parler ici, j'ai amené des éléments d'un travail qui était réalisé par une artiste américaine dans les années 70 qui s'appelle Judy Chicago et qui a fait la dinner party. La dinner party, c'était une table qui était destinée il y a un set de tables, il y a tout un ouvrage autour de cette table. Cette table était destinée à recevoir des convives qui étaient uniquement des femmes, les femmes qu'on a oubliées dans l'histoire. Et en introduction, pour rentrer dans la pièce, parce que c'est une pièce qu'on peut voir aujourd'hui au musée de Brooklyn à New York, il y a des panneaux, et sur ces panneaux, les femmes sont rétablies dans l'histoire. Donc si on voulait nommer les rues, ce serait très très facile, parce que ce que je vous ai amené, c'est un document
où
on voit, mais bien sûr, parce que si, et encore, c'est pas du tout exhaustif, on s'aperçoit que les femmes ont été évacuées de l'histoire, et c'est un travail important que de remettre la place des femmes dans l'histoire. Donc reprendre l'espace public, avec Jean Rivette, c'est ce que nous faisons, c'est réoccuper l'espace public, et pas seulement pour les femmes, pour toutes et pour tous, mais certainement pas dans les codes tels qu'ils sont conçus actuellement.
Alors Chris Blash, on a passé les trois quarts d'heure déjà écoulés de cette émission à faire un constat. Moi j'ai envie de vous dire, derrière, une fois qu'on fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit?
Alors, la première chose pour agir, c'est de se dire qu'on n'est pas seul, et déjà de regarder ce qui se fait à l'extérieur. Donc, un des axes de travail pour nous, c'est de regarder comment on change les choses, comment est-ce qu'on dégoupille les situations, et d'aller observer à l'extérieur. Ça peut être dans d'autres villes. Alors on voit que certaines villes ont fait des bureaux des temps, par exemple, pour travailler sur la circulation dans la ville.
Alors juste un petit détail avec Pascal Lapalu, avec laquelle vous avez créé Jean Réville. Vous travaillez ensemble en dehors de cette association. Vous étiez en sociologue et Pascal Lapalu étant urbaniste. C'est-à-dire que quelque part vous avez les clés de l'action.
Oui. Oui, on a les clés de l'action alors on agit de plusieurs manières. La première chose, c'est de proposer aux municipalités de travailler autrement et de réaliser des études et de commencer à poser les bases pour faire les choses autrement. Ça, c'est le premier point. Et on s'aperçoit aussi que pour faire en sorte que, pour donner envie que les gens travaillent autrement, il faut aussi titiller l'imaginaire. Et avec Pascal, effectivement, nous avons créé aussi un groupe qu'on qualifie d'arctiviste, qui est d'artiste activiste, qui s'appelle C'est beau le pouvoir. Et c'est un outil qui nous permet d'interroger les structures de pouvoir et de, sur un plan artistique, de bousculer les choses. Donc je parlais tout à l'heure d'une disparition de Pérec. Là, on est en train d'entamer un travail qui sera présenté à Paris et qui va être présenté aussi à Berlin au mois de mai, dans le cadre d'une collaboration de Jean Réville avec le Festival des arts de la performance. Enfin, c'est pas un festival d'ailleurs, c'est le mois de la performance à Berlin, et pendant lequel nous allons interroger la ville et la disparition des femmes dans la ville et leur réapparition. Donc on va faire des jeux avec de l'image pour montrer les disparitions apparitions, et d'à partir de là, encore une fois, les solutions, elles sont présentes. C'est le constat qui n'est pas encore réalisé. Donc notre rôle, c'est de mettre ça en lumière, de travailler sur le constat.
Chris Blasch, merci. Évidemment, on n'a pas été exhaustif, mais en tout cas, vous nous avez ouvert les yeux sur la place des femmes dans la ville. Merci.
Merci.
Pascal, vous allez nous parler, à travers l'histoire du cinéma, de quelques figures féminines désormais associées à des villes. Ces femmes à la fois réelles et fantasmées, est-ce qu'elles ont transformé notre rapport à ces décors urbains ?
Tout d'abord, il faut rendre hommage à la femme la plus célèbre de Paris. Personne réelle, immortalisée par le génie artistique et qui nous vaut tant de touristes. La Joconde, la star du Louvre, dont on notera qu'elle vient d'Italie, tout comme son auteur. C'est d'ailleurs au Louvre qu'une autre image de femme, étrangère elle aussi, sera fixée dans l'imaginaire cinématographique, celle de l'actrice Audrey Hepburn, imitant la victoire de Samothrace dans sa robe flamboyante signée Givenchy. Dans Funny Fest de Stanley Donen, le prestige de la culture s'associe au glamour de la haute culture et de l'élégance parisienne, cliché maintes fois renouvelé du cinéma américain. Le film présente une caricature des intellectuels, clin d'œil à l'existentialisme et du monde de la mode, en passant par les ambiances louches des boîtes du Quartier Latin. Finalement, le petit rat de bibliothèque succombera à la tentation du luxe.
Paris semble être un des décors favoris des cinéastes auxquels s'attachent d'autres figures féminines emblématiques.
Oui, et ces femmes, qui sont à la fois des actrices et des personnages, vont incarner différents aspects de la capitale. Souvent, elles sont associées à un quartier, à un milieu social. Arletty en est bien sûr une des figures mythiques, qui dans deux films de Marcel Carné incarne la parisienne typique. Dans L'Hôtel du Nord, c'est la gouaille de la femme du peuple qui ne se laisse pas faire.
Pourquoi tu l'as à la corde, hein ? On n'est pas heureux tous les deux ?
Non.
T'en es sûr ?
Oui.
T'aimes pas notre vie ?
Tu l'aimes, toi, notre vie ?
Faut bien, je m'y suis habituée. Quand il a remis à part, t'es plutôt bon mec. Hein. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors ?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi ?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Le célèbre Atmosphère est désormais associé à la passerelle qui enjambe le canal Saint-Martin, même si la scène a été tournée dans un décor reconstitué au studio Billancourt. Dans Les Enfants du Paradis, c'est un autre lieu de la ville qui devient le personnage principal. Les grands boulevards et ses théâtres, un monde romantique et trouble dans lequel Arletty, d'abord femme du peuple, devient femme du monde.
Et sur les Champs-Élysées, lieu parisien par excellence, qu'est-ce qui se passe ?
Les Champs ont été appréciés par les cinéastes de la Nouvelle Vague, comme Jean-Luc Godard. Il y a Anna Karina dans « Vivre sa vie », une déambulation tragique d'une prostituée dans un Paris pas très gai. Et surtout Jane Seberg dans « Un bout de souffle » qui vend le journal sur les Champs-Élysées.
New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!
Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où, Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris.
New York Herald Tribune!
C'est une sorte de pied de nez et un hommage au cinéma américain qui avait tant fait de Paris une carte postale. Ici, la jeune actrice incarne en femme moderne à la fois l'exotisme de son accent et la revendication de sa liberté.
Comment ces personnages féminins évoluent-ils dans l'espace urbain à Paris, mais aussi dans d'autres villes du monde ?
Il y a un thème qui nous permet de regarder comment ces femmes ont été associées à la ville, c'est celui du parcours, qui peut être déambulation ou fuite, voire les deux à la fois. Restons encore un peu à Paris. Dans trois films très différents, des femmes vont parcourir des lieux qui s'harmoniseront avec leur situation. Dans le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, on voit Jeanne Moreau errer dans le quartier des Champs-Élysées, dans l'attente et l'incertitude. Une vision de nuit où le décor se résume aux lumières des vitrines et des enseignes lumineuses, avec en fond la musique lancinante de Miles Davis. Et puis aussi, dans le même registre inquiet, la flânerie de Corinne Marchand, l'héroïne de Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda, où l'on voit cette jolie femme reprendre un certain goût à la vie en cheminant de la rue de Rivoli au parc Montsouris, au gré de ses rencontres. C'est ici un Paris quotidien et familier que l'on découvre, loin des lieux touristiques. Ou encore Audrey Byrne, qui joue à cache-cache avec Gary Grant dans les couloirs du métro, dessinant une carte improbable de la géographie parisienne. Ici, la ville souterraine est seulement évoquée par le nom des stations qui permettent de nous repérer et de nous égarer aussi, dans Charade, une comédie de Stanley Donen.
Si on partait faire un tour à l'étranger, est-ce qu'on y retrouve ce goût de l'errance, de la fuite ?
Oui, dans quelques films célèbres, on retrouve cette association entre lieux visités et personnages féminins. La fontaine de Trevi à Rome est bien sûr irrémédiablement associée à la plastique baroque d'Anita Ekberg dans la Dolce Vita de Fellini, qui est aussi une déambulation désabusée dans une ville à plusieurs facettes. Et puis toujours en Italie, on retrouve avec Antonioni et son film La Notte, une Jeanne Moreau désœuvrée, qui dans sa marche mélancolique parcourt une distance et un temps presque suspendu dans les rues de Milan, rue silencieuse et rendue abstraite par la photographie en noir et blanc qui accentue les lignes géométriques des architectures modernes. Autre balade urbaine qui visite les lieux mythiques d'une ville, la fausse errance mystérieuse de la femme blonde que suit James Stewart dans San Francisco. Qui peut encore se rendre au pied du Golden Gate Bridge sans voir Kim Novak se jeter à l'eau pour être secouri par l'homme qui en sera le jouet ? Dans Vertigo, Hitchcock nous met dans une situation où nous sommes comme des voyeurs, piégés aussi. Comme James Stewart, dans ce film, la ville devient le décor monumental et silencieux dont l'énigmatique sirène nous sert de guide.
Dans les films que l'on vient d'évoquer, on assiste à chaque fois à des parcours plutôt calmes, errances, introspectives ou mystérieuses. Elles se font tous faites tranquillement. Est-ce que l'idée de féminité serait associée d'emblée à cette temporalité ?
Eh bien, pas toujours. Si nous nous transportons de l'autre côté des États-Unis, sur la côte Est, nous avons dans un cinéma très différent le personnage traqué de Gloria, film de John Cassavetes. Ici, c'est un parcours bien tourmenté que va improviser Jenna Roland et son petit protégé afin d'échapper à la mafia. Dans cette course-poursuite, dans les rues de New York, au suspense intenable, la ville est transformée en terrain de chasse, théâtre de violence et de danger. Gloria incarne non plus la femme mélancolique, étrange, élégante des films précédents, mais au contraire, une femme combative par nécessité, qui doit avant tout survivre et finalement sauver la vie du garçon dont elle a hérité. Une vision de New York beaucoup moins charmante que celle donnée par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, par exemple.
Fin de cette nouvelle édition d'Homo Urbanicus pour évoquer avec nous la place des femmes dans la ville. Chris Blach était avec nous. Bernard Millot a assuré la réalisation de cette émission ainsi que le montage de la chronique de Pascal Dutertre. Merci également à Ricardo Burgos qui était aujourd'hui aux manettes. Mes remerciements vont bien évidemment aussi à Pascal Dutertre pour sa chronique. L'émission que vous venez de suivre sera prochainement disponible en réécoute via le lien sur le site aligrefm.org de rubrique programme Homo Urbanicus, émission en écoute. Vous pouvez également consulter notre page Homo Urbanicus sur Facebook. Pour cela, pas besoin de faire partie de ce réseau social. On y a mis la liste des références bibliographiques, des musiques que nous avons diffusées, ainsi que des liens sur notre thème du jour. Pour toute remarque et commentaire, notre adresse homourbanicus@aligrefm.org. Je répète, homourbanicus tout attaché @aligrefm.org. En attendant, bonne semaine à vous tous, homourbanicus de tous les pays, et surtout, soyez urbains.